À Rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est une émission qui est consacrée en partie, brièvement, à une abbesse bénédictine qui est morte en 770, qui a été très très populaire autrefois, Sainte Opportune, curieux nom, n'est-ce pas? Mais c'est juste pour vous donner une idée du genre de vie qu'on écrivait des saints à l'époque. Et je passerai rapidement à Régine Pernoud, qui est morte il y a un an aujourd'hui. Régine Pernoud, cette femme exceptionnelle, une des grandes femmes du XXe siècle, qui a écrit de très nombreux ouvrages sur le Moyen-Âge, et donc une médiéviste, une spécialiste du Moyen-Âge, qui a consacré de nombreux ouvrages en particulier à Jeanne d'Arc, qu'elle méprisait au début, puis c'est en étudiant Jeanne d'Arc qu'elle s'est rendue compte de la grandeur de ce personnage. Elle a même écrit un livre sur Jeanne d'Arc et Thérèse Enfant Jésus, qui était intitulé Jeanne et Thérèse, mais aussi, surtout, un livre qui a fait sensation pour en finir avec le Moyen-Âge. Elle voulait montrer que la femme au Moyen-Âge était libre, était l'égale de l'homme, et qu'elle en a apporté d'ailleurs des preuves et des tas de documents. Elle écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus, mais elle a aussi écrit une histoire de la bourgeoisie en France, des origines au temps moderne, et puis les temps modernes, deux gros livres, tout ça est paru au Seuil. C'est vraiment un grand personnage, mais passons tout d'abord à quelques détails au sujet justement de Régine Pernoud. Elle m'avait écrit une carte vraiment sympathique de son joli village de Puy-Moisson. C'est dans les Basses-Alpes, et puis c'est la carte est couverte de lavande. Et elle dit qu'elle est heureuse, qu'on pense à elle au Québec. Elle était toute heureuse de savoir qu'elle était lue et aimée ici. Et elle ne pouvait pas regarder un film que j'avais fait sur le Saint-Suaire qui passait à Paris parce qu'elle était à Tokyo pour aller parler aux Japonais de Jeanne d'Arc qui voulait en savoir davantage. Et pour vous dire l'importance de cette femme qui était appelée d'un bout à l'autre du monde pour aller dire des choses non seulement sur le Moyen-Âge, mais même sur Jeanne d'Arc. Et Jean-Étienne Blais, décédé il y a quelques années à peine, dans ses carnets publiés dans Le Devoir le samedi, écrivait un jour à la suite de l'apparition de cet ouvrage de Régine Pernoud en 1982, « Les hommes de la croisade » paru chez Fayard. Il dit que Régine Pernoud est une historienne du Moyen-Âge dont les connaissances égalent l'enthousiasme. C'est pour vous dire l'importance. Il suffit de lire une page d'elle pour sentir passer le courant. Et il ajoute plus loin, Régine Pernoud regarde vivre les êtres humains. Et c'est ce qu'elle a fait en étudiant pendant des années les documents les plus secrets, traduisant les documents, déchiffrant tout ça dans des langues difficiles. Et il dit à un moment donné, on devrait recommander la lecture de Régine Pernoud à nos spécialistes du Moyen-Orient qui discutent avec les Arabes sans les connaître, qui se moquent de leur foi, qui ne s'incline pas devant certaines pages du Coran. Et il termine, c'est un long article que je vous résume, il dit, lorsqu'on la met, Régine Pernoud, en regard du Moyen-Âge, dans ses élans créateurs, quand on, avec elle, on met en regard du Moyen-Âge, la Renaissance apparaît comme tristement répétitive, il dit. Alors, elle fait aimer le Moyen-Âge. Il dit, à l'époque des croisades, l'homme était comme neuf. Régine Pernoud fait revivre Saint-Bernard et Saint-Pierre le Vénérable, ces deux rivaux immenses. Comment retrouver de nos jours ce siècle de géants? Bien, on va essayer aujourd'hui, à travers elle, de rencontrer tout d'abord Sainte Opportune. Mais avant de parler de Sainte Opportune, j'aimerais glisser un mot sur une entrevue qu'elle nous avait accordée en 82 à Rencontre à la télévision, à Marcel Brisebois et à moi, une entrevue extraordinaire. Et elle a découvert, disait-elle dans cette entrevue, l'intérêt extraordinaire que présente le Moyen-Âge au cours de ses études à l'école des chartes. L'école des chartes qui enseigne la façon de déchiffrer, si on peut dire comment lire les vieux textes manuscrits. Et si aujourd'hui de plus en plus de gens découvrent l'incroyable efflorescence spirituelle et culturelle de cette grande époque du Moyen-Âge, c'est qu'à travers les voyages, tous et chacun découvre que la création, sous toutes ses formes, ça n'a pas été seulement l'apanage de l'Antiquité gréco-romaine et de la Renaissance en sautant par-dessus le Moyen-Âge. Non, elle dit qu'au Moyen-Âge, on était beaucoup plus soi-même et l'on ne croyait pas que le beau consistait dans l'imitation des anciens. Et la vie, surtout des gens de cette époque, a de quoi, dit-elle, nous étonner. On y découvre que la femme, par exemple, et c'est pour ça que je vous rappelle ça, m'intéresser toute l'histoire féminine, on y découvre que la femme, par exemple, au 12e siècle en particulier, était l'égale de l'homme, et qu'il en était résulté une société extraordinaire. Et ce n'est que plus tard, sous la contrainte du Code Napoléon, au 19e siècle, lequel remettait au premier plan les privilèges du pater familias, hein, le père de famille, le pater familias, que la femme a perdu ses droits. Et selon Régine Pernoud, qui est une femme très savante, hein, ce n'est pas le Moyen-Âge qui apparaît comme la période noire de l'histoire, mais bien plutôt le 19e siècle avec le règne de la bourgeoisie qui vit sous les impératifs de ce droit romain. D'ailleurs, à ce moment-là, au lieu de créer des œuvres intensément personnelles comme au Moyen-Âge, nous a valu, par exemple, le beau tympan de Moissac, hein, c'est un bas-relief au-dessus de la porte d'entrée de l'abbaye de Moissac. C'est un tympan absolument sensationnel avec un Christ en gloire. C'est extraordinaire, ça. Ben, elle dit, au lieu de ça, bien, on produit au 19e siècle des prix de Rome, c'est-à-dire ces sculpteurs qui gagnaient le prix de Rome pour aller étudier à Rome et qui faisaient des choses extrêmement conventionnelles d'après elle. Et elle est donc très hostile à cette bourgeoisie qui naît au début du 11e siècle. Parce que la bourgeoisie est apparue lentement, et s'est affirmée de plus en plus au cours des siècles. Et Régine Pernoud, elle nous disait dans cette entrevue à la télévision que cette classe sociale de la bourgeoisie a su à merveille ajouter au pouvoir économique un pouvoir administratif sur lequel les rois, les empereurs se sont appuyés. Et malheureusement, bien, parallèlement à cette montée de la bourgeoisie qui n'a pas que des avantages, que des désavantages plutôt, s'est accentué de siècle en siècle le déclin de la femme. La femme a décliné, laquelle en est venue presque à cesser d'exister d'après elle, et au contraire, au 12e siècle, elle revient au Moyen-Âge, au 12e siècle, les femmes pouvaient, écoutez bien ça, même gérer et administrer des domaines, tout comme les hommes. Et ce n'est qu'en 1593 qu'en France, le Parlement édicte un arrêt qui interdit à la femme toute fonction dans l'État. Tandis que les premières mesures vraiment antiféministes sont prises en 1314 par Philippe le Bel, quand il écarte les femmes de la succession au trône de France. Il y a eu ensuite une période de transition, puis peu à peu, les femmes ont reculé sur presque tous les plans, et c'est en tant que chartiste, que spécialiste des vieux documents, à travers les vieux livres, les anciens parchemins, que Madame Régine Pernoud a découvert l'existence de tout ce monde du Moyen-Âge où l'homme n'était pas seul à prendre des décisions. Au 12e siècle, par exemple, la femme y avait droit, de même que les enfants au-dessus de 6 ans, les enfants au-dessus de 6 ans, c'est incroyable, hein? À cette époque, la famille est très stable. Ça sert de base à une sorte d'émancipation des jeunes qui atteignent même leur majorité, savez-vous, pour les garçons à 14 ans et les filles à 12 ans. Et elle a découvert également l'importance de l'Église catholique, elle était la seule de toute façon, dans tous ces mouvements d'émancipation et de libération. En Occident, il n'y avait pas d'autre Église que l'Église catholique, à part une petite Église qu'on appelle les Vaudois, dans le nord de l'Italie. J'ai déjà rencontré des Valdésiens, là. Et elle dit qu'en effet, l'Église a favorisé la liberté des jeunes dans le choix de leur conjoint. C'est l'Église qui a favorisé ça, d'après elle, saviez-vous ça? Et c'est l'Église qui a préconisé, d'après elle, l'égalité de l'homme et de la femme, et qui a fait tout en son pouvoir pour abolir l'esclavage aussi. Elle a les documents, elle raconte ça dans ses ouvrages. L'Église, catholique toujours au Moyen-Âge, nous disait Régine Pernoud dans cette belle entrevue, que je n'ai malheureusement pas. C'est curieux, je n'ai pas ça dans mes archives. Si quelqu'un en avait une copie, j'aimerais bien avoir les copies des deux entrevues de Régine Pernoud à la télévision. Eh bien, l'Église au Moyen-Âge a été, dit-elle, une forme de libération extraordinaire selon l'enseignement même de Jésus-Christ. Et l'Église a, tout au long de l'histoire, canonisé beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est ce qu'elle signalait d'ailleurs en souriant. Et n'oublions pas que les femmes, au Moyen-Âge, avaient le pouvoir politique au même titre que les hommes. Et elles l'ont perdu par la suite. Et quand est-ce qu'elles l'ont retrouvé, leur pouvoir politique? En 1947, grâce au général de Gaulle, disait-elle à la fin de l'émission, qui était extrêmement intéressante. Régine Pernoud, décédée il y a un an aujourd'hui, j'y reviendrai, je vous en reparlerai de cette femme exceptionnelle. Mais avant, nous allons parler de la plus illustre vierge dont s'honore l'Église de Sèze. C'est le diocèse de Sèze, c'est, disons, dans la région d'Alençon, là où a grandi Thérèse Martin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin du siècle dernier. Hein, c'est en Normandie. Et cette Vierge, sainte opportune et sans contredit, c'est Albès d'Almenèche au 8e siècle, elle est sans contredit l'une des femmes les plus importantes de son époque. Il y a déjà, donc, 1200 ans et davantage. Durant sa vie, comme après sa mort, elle a opéré un si grand nombre de miracles qu'elle a mérité un titre qui est l'équivalent de celui du frère André, qu'on appelait le thaumaturge de Montréal ou du Québec ou du Mont-Royal. Elle était appelée la thaumaturge de la Normandie. Et son culte s'est répandu promptement dans toute la France pour atteindre même Paris, où elle avait une église qui lui était dédiée. Je n'ai pas pu la retracer dans mes archives, mais je crois qu'elle existe toujours. C'est une femme qui est née à Aix, autrefois une importante ville du diocèse de Sèze, là près d'Alençon, au commencement du 8e siècle. Et je vous signale, avant d'écouter un peu de musique, de chant grégorien chanté par des bénédictines, elle était abbesse bénédictine, elle. Son père descendait des rois de France, puis il gouvernait cette contrée, là, de Normandie, à titre de comte. Et son frère, Saint Godegrand, appelé aussi Crottegrand, a occupé aux environs de 760 le siège épiscopal de Sèze. Et sa tante, Lantilde, à qui l'on donne parfois le titre de sainte, était abbesse des bénédictines d'Almenèche. Elle va entrer dans un monastère juste à côté, monastère qui est situé entre Sèze et Argentan et fondé deux siècles auparavant par Saint Évroult. Comme vous voyez, beaucoup de saints, Saint Évroult, Sainte Lantilde, Saint Godegrand, Sainte Opportune. Que de saints à cette époque, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Voici donc cette vie de Sainte Opportune telle qu'on l'a racontée autrefois dans le style du Moyen-Âge, avec toute sa fraîcheur et les anecdotes curieuses, miracles spéciaux, le style un peu dépassé, évidemment. Alors, je vous donne ça rapidement, en quelques minutes. Opportune était d'une beauté remarquable, et aussi un grand nombre de jeunes seigneurs riches et puissants aspiraient à obtenir sa main. Il mettait tout en œuvre pour gagner le cœur d'Opportune, mais plus les promesses qu'on lui faisait étaient magnifiques, plus elle se détachait de l'amour des choses de ce monde. C'est que l'infinie beauté de Dieu l'avait ravie. Et pour lui conserver intact le parfum de son innocence et de sa virginité, Elle était disposée à tout fouler aux pieds, même une couronne royale. Je vous ai dit que son père descendait des rois de France. Un jour, Opportune accompagne ses parents à l'église. Elle entend lire ces paroles de l'Évangile de notre Seigneur, où notre Seigneur dit à un jeune homme, « Allez, vendez ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et ensuite, venez, suivez-moi, et vous aurez un trésor dans les cieux. » Ces paroles pénètrent au fond du cœur de la jeune fille comme un trait de lumière, et décident de la direction de sa vie. Rentrée chez elle, elle supplie ses parents de lui permettre de se faire religieuse pour se donner tout à Dieu et n'avoir plus rien au monde. Les parents sont d'abord très étonnés de cette demande. Et finalement, ils lui donnent leur consentement. L'abbaye d'Almenèche, Almenèche existe toujours, hein? Il y a un curé à Almenèche, le curé Durand. L'abbaye d'Almenèche était peu éloignée. Un sentiment naturel aurait pu décider Opportune à y chercher un asile près de sa tante, la sainte. Elle préfère la solitude de ce que l'on appelait le petit monastère, Monasteriolum, sur le territoire d'Almenèche, et qui était réputé en ce temps-là pour son étroite observance et sa discipline régulière. Et quelques jours après son arrivée dans ce monastère, Opportune y reçoit le voile des mains de son propre frère Godegrand, en présence de leurs parents et d'une grande foule, une foule considérable. Lorsqu'elle est entrée dans le monastère, les autres religieuses, écoutez bien, ont aperçu son ange gardien qui marchait à ses côtés pour l'instruire de ce qu'elle avait à faire. Et alors, il n'est donc pas étonnant que ses progrès dans la perfection aient été rapides et qu'elle a surpassé bientôt les anciennes et même ses maîtresses dans la science de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est le style du Moyen-Âge où le merveilleux, ou qui est possible, habite toujours les vies de saints. L'abbesse du petit monastère vient à mourir et toutes les religieuses jettent les yeux sur Opportune pour lui succéder. Dans son humilité, elle ne veut pas d'abord y consentir. Elle demande 3 jours de délai afin de consulter la volonté de Dieu, qui lui fit enfin connaître par une révélation qu'elle était son bon plaisir. L'élu se soumit donc, mais sa nouvelle dignité d'abbesse ne lui sert qu'à augmenter ses dévotions et ses pénitences. Elle passe souvent les nuits en prière et elle se prive quelquefois de nourriture pendant des jours entiers. Et quelque chose qui ressemble aux recommandations de la Vierge de Medjugorje, tous les mercredis et vendredis sont pour elle autant de jours de jeûne. Mais si elle est austère pour elle-même, elle a grand soin de ses religieuses et elle veille à ce que rien ne leur manque. Les malades et les pauvres sont l'objet de sa plus tendre sollicitude, car, voyant toujours en eux Jésus-Christ lui-même, elle se fait un plaisir de les servir. Elle couche sur la dure et n'a pour couverture qu'un rude tissu de crin. Pendant le jour, elle a soin de couvrir son lit d'un voile d'un aspect moins austère, afin de cacher ses pénitences aux nombreux visiteurs. Parce que, comme elle est abbesse, elle habite une maison un peu qui est rattachée au monastère, mais qui est la maison de l'abbesse. C'était comme ça dans les monastères. Hein. Elle peut recevoir. Le cilice ne la quitte pas. Et sa robe, de grosse étoffe, est toujours la même, en été comme en hiver. La sainte abbesse Opportune, quel nom curieux encore, je vous le répète, la sainte abbesse a un talent particulier pour instruire ses filles et pour les corriger. Elle tempère toujours la justice par la miséricorde. Et elle fait si bien par ses prières et ses remontrances que les plus opiniâtres se rendent enfin dociles au mouvement de l'Esprit de Dieu qui la conduit. Sa douceur est si grande que personne ne la voit jamais agitée ni troublée par des mouvements d'impatience ou de colère. Son esprit de prière est si profond qu'elle obtient tout de Dieu. Et on raconte cette anecdote que je trouve absolument charmante. Quand des voleurs, ou même des animaux, ont enlevé quelque chose, ils le rapportent. Tant est grand le pouvoir de l'abbesse auprès de Dieu. Ses vertus éclatantes attire à elle un grand nombre de jeunes filles qui viennent apprendre à son école les règles à perfection. Son frère Godegrand, évêque, décide de se préparer à la mort par un pèlerinage à Rome et en Terre Sainte. Il quitte sa résidence épiscopale, à 16, pendant plusieurs années. En partant, il confie le soin de son troupeau à un ami, un prêtre nommé Crodebert. Mais Crodebert est indigne de la confiance de Godegrand. L'avarice et l'ambition l'habitent. Il pousse l'effronterie jusqu'à se faire sacrer évêque de 16 ans à la place de l'évêque absent parti en pèlerinage. Toutefois, lorsque Godegrand revient de son pèlerinage, Crodebert lui fait remettre une lettre dans laquelle il l'invite à venir pour reprendre possession d'un siège qui lui appartient. Lorsque Godegrand reçoit le message, il en fait part à sa sœur Sainte Opportune. Celle-ci, avec des lumières d'en haut, connaît qu'il s'agit en réalité d'un guet-apens. Elle essaie donc de mettre son frère en garde contre le danger trop réel qu'il va courir, parce qu'elle est au courant de la mauvaise conduite de celui qui l'a remplacé. Mais Godegrand estime que même esprit le devoir lui commande de partir. Et de fait, Godegrand, Saint Godegrand, est tué par un de ses familiers, plus encore par un de ses filleuls, paraît-il, à la solde de Crodebert. Ce crime a été perpétré près de Nonon le 3 septembre 767. Je continue toujours cette curieuse vie de Sainte Opportune racontée à la façon qu'on le faisait au Moyen Âge. Ce sont des miracles maintenant de Sainte Opportune. Après la mort de Saint Godegrand, son frère, Dieu semble se plaire à faire reluire la sainteté de sa servante d'une manière plus éclatante. Et de toutes parts, on accourt à son monastère. Les maladies les plus rebelles trouvent en elle un remède. Sa prière est douée d'une puissance merveilleuse. Une invocation suffit pour rendre usage de leurs membres aux paralytiques, aux aveugles, aux aveugles de la vue, aux possédés, le calme et la paix. La charité de Sainte Opportune est extrême. Et elle se fait toute à tous. Opportune pleure avec les affligés et leur donne des paroles de consolation. Nul ne vient à elle accablé par la maladie ou par le malheur qui ne s'en retourne consolé, dit-on. Elle avait un don spécial pour éclairer ceux qui avaient été pillés par les voleurs. Entre autres miracles, celui du présalé est resté célèbre dans le diocèse de 16. Et c'est encore, on en parle encore là-bas. L'abbesse, ayant envoyé un de ses serviteurs chercher du bois de chauffage à la forêt commune, le garde forestier a mis en fourrière la bête de somme et sa charge. Et sur la réclamation d'Opportune, il répond avec moquerie en montrant son pré du doigt, « Lorsque ce pré sera tout couvert de sel, le prisonnier sortira et vous serez pendu. » Et vous sera pendu, c'est-à-dire, vous sera rendu. Puis, il tourne les talons, mais le lendemain, grand est son effroi, quand la rumeur publique vient lui apprendre que son pré était blanc de sel, couvert de sel. Depuis ce temps, il a toujours été appelé le pré salé. Cette puissance miraculeuse avait sa source dans un esprit de prière porté à un degré extraordinaire, raconte son biographe à l'époque. Il y a longtemps, il y a plus de 1000 ans. Opportune vivait par avance dans le ciel. Tous ses vœux et tous ses désirs étaient dirigés vers la patrie éternelle. Aussi avait-elle un dégoût extraordinaire des choses de la terre et priait-elle notre Seigneur de l'en retirer. C'est bien dans le style de l'époque. Comme Sainte Opportune qui avait ce grand sens de la présence de Dieu, je vous ai dit qu'elle avait un dégoût extraordinaire des choses de la terre et qu'elle priait notre Seigneur de l'en retirer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et Sainte Opportune connaît par révélation le jour de sa mort. C'est arrivé à plusieurs saints, c'est curieux ça. Sa prière est exaucée et Opportune connaît par révélation, oui, le jour de sa mort. Elle réunit toutes ses religieuses et leur annonce cette nouvelle. En leur disant qu'elle serait plus utile dans le ciel qu'ici-bas. C'était l'opinion de Thérèse l'Enfant Jésus qui est morte à 24 ans et de quantité de saintes qui sont mortes comme ça à 24, 26, 30 ans. Elle se jette alors aux pieds de ses sœurs bénédictines. Elle demande à chacune pardon des offenses et qu'elle a pu leur avoir faites. Mais ces bonnes sœurs, dans le bon sens du mot « bonne sœur », la relèvent en pleurant et l'assurent que, loin de les avoir contristées, elle n'avait fait au contraire que les édifier et les porter au bien. Et cette sainte abbesse, dit ce vieux texte, exhorte ensuite ses sœurs à la paix, à l'union et à l'observance de leurs vœux et de leurs règles. Elle annonce que sa mort va survenir dans 12 jours. Elle demande à être inhumée auprès de son frère Godegrand. Et voilà que va survenir une apparition de sainte Lucie et de sainte Cécile, une victoire sur le démon. Après avoir fortifié ses filles par d'édifiantes paroles, elle est saisie d'une grave prière, d'une grave fièvre. J'ai de la misère à me relire. Pendant les douleurs extraordinaires qu'elle éprouve, là, les louanges de Dieu sont continuellement quand même sur ses lèvres. Un matin, lorsque l'aurore commence à poindre, là, il y a une vive lumière qui apparaît sur la maison où elle était, et des parfums suaves la remplissent. On me certifie que c'est tout à fait possible. Moi, j'ai déjà été témoin de parfums comme ça. Je le dis en toute simplicité plusieurs fois. Et je ne blague pas. Je suis sérieux. À ce moment, sainte Cécile et sainte Lucie apparaissent à la mourante et lui annoncent qu'elle va bientôt être réunie à Jésus, qu'elle a aimé ici-bas de tout son cœur. Sainte Opportune est au comble de ses vœux et son âme surabonde de joie lorsqu'un démon horrible apparaît dans un coin de la cellule. Son corps est noir, ses yeux lancent des flammes, de sa bouche et ses narines s'exhalent des vapeurs de soufre. À la vue de ce monstre, l'abbesse bénédictine lui dit sans s'effrayer, « Esprit pervers, auteur de tous les maux, reste ici, je te l'ordonne. » Elle appelle alors ses religieuses, puis elle leur dit, « Regardez, voilà l'ennemi de notre salut. Par la grâce du Christ, je l'ai vaincu. Je vous supplie, mes sœurs, de ne jamais consentir à ces infâmes suggestions. » Puis se tournant vers le démon, elle lui dit, « Au nom du Seigneur, fuis loin d'ici. Jamais tu ne vaincras sa servante. » Au bout de 12 jours, comme elle l'avait prédit, Opportune, qui sait que sa dernière heure est arrivée, elle demande à des prêtres d'offrir le saint sacrifice de la messe pour le repos de son âme et à toutes les religieuses de faire de nombreuses prières puis des aumônes abondantes aux pauvres. On lui apporte ensuite le saint viatique, la communion. Elle reçoit le corps vivant du Christ ressuscité avec des sentiments admirables de ferveur. Les clercs et les religieux chantent les prières des agonisants et elle chante avec eux lorsque, jetant les yeux vers la porte de sa cellule, elle dit aux assistants, « Ah, voici la bienheureuse Vierge Marie qui vient me chercher. Je vous recommande à elle, car je vais vous quitter. » Quand j'étais à Saint-Benoît-du-Lac, au milieu des années 40, novice, est mort le frère Hilaire. Le vieux frère Hilaire, un Français qui avait participé à la fondation du monastère au début des années 1910, est mort en odeur de sainteté, selon les moines qui ont été témoins de sa mort. Et au moment de sa mort, il a dit au prieur Don Mercure, des paroles semblables à celle-ci, « Voici la bienheureuse Vierge Marie qui vient me chercher. » Était-ce une illusion? Était-ce vrai? On rêve de pouvoir trancher cette question en faisant des études sur la vie du frère Hilaire et sur les témoignages de ceux qui l'ont connu comme étant un saint à Saint-Benoît-du-Lac. Alors, Sainte Opportune étend les bras, comme pour embrasser Marie, la Mère de Dieu. Et aussitôt, cette sainte abbesse expire. C'était le 22 avril de l'an 770, le jour même de Pâques. Les religieuses ont pleuré abondamment sur le départ de leur mère, et selon son désir, ils ont déposé sa dépouille auprès du corps de son frère, Saint Gondegrand. Le Seigneur s'est plu à glorifier dès ici-bas ses deux fidèles serviteurs, le frère et la sœur, le frère évêque, la sœur abbesse. Une multitude de miracles se sont opérés sur leur tombeau et ils ont rendu un objet de vénération pour les peuples pendant des siècles. On a mis en sûreté, lors de l'invasion des Normands, les restes de ces deux saints au domaine royal de Moussy-le-Neuf, près de Dammartin, autrefois du diocèse de Paris, actuellement du diocèse de Meaux. Meaux a été évêque, Bossuet. Une église et en 1090 un prieuré y ont été construits en son honneur. Et cette translation a été marquée par de nombreuses et extraordinaires guérisons, dit-on. Le monastère de Moussy-le-Neuf est demeuré jusqu'à la Révolution quand il a été détruit. De Moussy, une partie des reliques ont été portées à Paris, en l'église Notre-Dame-des-Bois. Et la thaumaturge normande, Sainte Opportune, y a opéré tant de miracles, dit-on, que cette église, érigée en une collégiale qui comptait 9 chanoines, est devenue un lieu de pèlerinage très fréquenté et a reçu définitivement le nom d'église Sainte Opportune, dit-on. Et voilà pour la vie de cette femme du Moyen Âge. Abbesse d'un monastère, femme de tête et femme de cœur. Ce Moyen-Âge qu'a tant étudié Régine Pernoud, qui est décédée il y a un an aujourd'hui, le 22 avril. Je vous ai dit que c'était une historienne et grande spécialiste du Moyen-Âge, auteur entre autres d'ouvrages comme « La femme au temps des cathédrales »,« Vie et mort de Jeanne d'Arc » et plusieurs autres sur Jeanne d'Arc. Elle a écrit même un très beau livre au seuil immense sur Jeanne d'Arc avec des images, des photos, des reproductions superbes. Et interrogée par Marcel Brisebois à Rencontre en 1982, les émissions qui passaient si tard que peu de gens pouvaient les regarder, ça passait à 11h30 le soir, imaginez. Des émissions comme ça, 11h30. L'aberration. Marcel Brisebois lui demande si l'étude de la femme au Moyen-Âge a fait d'elle une féministe. Et Régine Pernoud répond que oui, en partie. Parce que ses connaissances l'ont amené à considérer que la plupart des revendications féministes sont justes. Elle s'explique là-dessus. On peut facilement constater qu'au 19e siècle bourgeois, je vous en ai glissé un mot au début de l'émission, la femme ne joue absolument aucun rôle actif dans la société, qu'elle est confinée à ce que l'on appelait alors les arts d'agrément. La broderie, la dentelle, les petits soins ménagers. On ne considérait pas à ce moment que l'art fut peut-être ce qu'il y a de plus sérieux dans l'existence, dit-elle. L'art. Mais attention, c'est une éminente catholique que Régine Pernoud. Vous allez voir ce qu'elle va dire tout à l'heure. On y donnait la préséance aux affaires et à la politique dans la société, et tout ça était réservé exclusivement aux hommes. Mais ceci dit, Régine Pernoud n'en considère pas moins la révolution féministe actuelle comme fondamentalement insatisfaisante. Pourquoi? Parce que, dit-elle, cette révolution féministe est fondée sur l'imitation de l'homme et sur tout ce qui est masculin. Régine Pernoud reproche aux féministes d'avoir l'air de penser, justement, qu'on est quelqu'un que quand on est homme et que l'on a un comportement masculin. Ce qu'il faut, dit-elle, c'est l'égalité dans la complémentarité. Alors, elle s'explique. Régine Pernoud raconte qu'au Moyen Âge, une Éléonore d'Aquitaine et une Blanche de Castille, les reines, étaient bien trop heureuses d'être des femmes, d'agir comme des femmes et d'écrire comme des femmes, alors que les troubadours leur dédiaient des poèmes d'hommes adressés à des femmes. Et Régine Pernoud demeure persuadée qu'il n'y aura de véritable féminisme que le jour où les femmes assumeront entièrement leur identité de femme, ne s'inspireront pas des hommes et ne chercheront pas à les imiter. Elle disait en toutes lettres, ou en toutes paroles, « On ne fait jamais rien de bien quand on imite, mais bien plutôt quand on invente. » Même dans l'enseignement, elle racontait que dans l'enseignement, les femmes devraient être elles-mêmes. Les femmes devraient y apporter une véritable marque personnelle de femme. Il faudra encore, pense Régine Pernoud, attendre au moins 50 ans avant d'en arriver là. Eh bien, 20 ans ont passé. Reste encore 30 ans. Au Moyen-Âge, c'est la famille qui est au centre de tout. Et la famille, c'est la femme, nous rappelle Régine Pernoud. On peut même dire qu'elle était le pivot de la société féodale. Et contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, quand le seigneur partait en croisade, eh bien, sa femme ne restait pas confinée dans le château, mais elle partait avec lui pour la grande aventure dans les croisades. C'est incroyable. Au Moyen-Âge, il existait une absolue égalité dans le mariage entre l'homme et la femme. Saviez-vous ça? Étrange, hein? Certes, en civilisation chrétienne, le libertinage n'est pas encouragé. Bon, c'est évident. Il existe en amour une certaine tenue, dit-elle, signe d'exigence intérieure. Par ailleurs, quand a-t-on plus et mieux parlé d'amour qu'au Moyen Âge? Elle pose la question. Alors, il n'y avait, pour ainsi dire, que ça qui intéressait tout le monde. Les troubadours et les trouvères y créèrent les fameuses cours d'amour et on y a inventé le genre du roman entièrement fondé sur l'intrigue amoureuse dont la femme est le centre. Mais, c'est très important, il n'y a qu'un amour et il va des créatures à Dieu au Moyen-Âge. Parce que Dieu n'est pas oublié, aujourd'hui il est oublié, quelle horreur. Ces gens ne séparaient pas l'amour de la sexualité. Hein? Saint Bernard sera d'accord avec la conception de l'unité de l'amour, dit-elle, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu apte à situer l'amour humain dans une juste perspective. Je répète, il n'y a que l'amour de Dieu apte à situer l'amour humain dans une juste perspective. C'est pour ça qu'il y a le sacrement de mariage. C'est ça, le sacrement de mariage. C'est pour mettre l'amour de Dieu dans le couple, l'amour de Dieu vivant au cœur de l'époux et de l'épouse. Et comparant la dureté de notre époque au 11e siècle, Régine Pernoud pense que nous acheminons vers un épanouissement spirituel comme celui qui fleurissait au 12e siècle, et on peut l'espérer avec elle. Après avoir démontré qu'Héloïse et Abélard représentent le suprême exemple d'amour sublime, en dépit de leur conduite, Régine Pernoud pense qu'à nouveau, dans l'humanité, un profond désir de spiritualité se fait sentir. C'est vrai. Il faut aider à ce qu'il s'épanouisse, faut pas démissionner. En partie déçue par les promesses de la science, puis des idéologies politiques, là, une partie de l'humanité se tourne ou vers la violence, comme on a vu aux États-Unis, puis au Kosovo, puis au Timor, puis au Soudan, puis etc. Ou bien on se tourne vers les sectes les plus invraisemblables. Quant à Régine Pernoud elle-même, toute sa démarche, elle l'affirmait à la fin de cette émission, sa démarche reste essentiellement sous-tendue, écoutez bien, par une recherche d'ordre spirituel dans l'Église catholique et à travers l'Eucharistie qu'elle recevait tous les jours. Régine Pernoud est née en 1909. Elle est morte le 22 avril 1998, donc à l'âge de 88 ans. Et c'est une des plus ardentes médiévistes de notre temps qui est disparue. C'est une bibliothèque immense qui s'est effondrée, on pourrait dire. Mais heureusement, elle a laissé des écrits importants. Et Régine Pernoud a su argumenter puis dévoiler les connaissances que les savants avaient du Moyen-Âge. Et pourtant, elle avoue qu'au début de ses études, c'est pas ce qui l'intéressait, car elle était plongée dans l'histoire de l'Antiquité classique. Et c'est petit à petit qu'elle s'est mise à découvrir le Moyen-Âge, qui est à l'opposé de ce que l'opinion publique croit. Et pour elle, le Moyen-Âge est la source de la civilisation, la période de formidable liberté puis de fécondité extraordinaire dans les arts et les lettres. C'est une civilisation interrompue par ce que nous appelons la Renaissance, qui s'est vouée, elle, au retour des valeurs de l'Antiquité. Elle a fait paraître un livre, d'ailleurs important, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, pour en finir avec le Moyen-Âge. C'est pas très long à lire, c'est 150 pages, même pas. C'est paru dans la collection Histoire, aux éditions du Seuil. C'est toujours sur le marché. C'est vraiment fascinant. Et on ne peut accuser de faire œuvre de vulgarisation quand elle écrit ça. C'est une œuvre d'historien qui est adaptée quand même au grand public. Hein? Et elle dit des choses telles qu'elle les traduit directement là, des documents historiques. Elle montre que dans un Moyen-Âge fondé sur la chrétienté, les hommes et surtout les femmes de ce temps vivaient une véritable civilisation de la liberté, une civilisation de l'harmonie. C'est très, très, très important. D'ailleurs, il y a des gens qui disent « Nous ne sommes plus au Moyen-Âge ». Ça la fâchait d'entendre ça. Il y a matière dans ce livre pour répondre à tous ceux qui disent des sottises comme ça. Elle disait « Le médiéviste, si s'est mis en tête de composer un sottisier sur le sujet, se trouve comblé par la vie quotidienne de tout ce qu'on dit contre le Moyen-Âge ». Dans un autre ouvrage sur les origines de la bourgeoisie dont je vous ai parlé, elle révèle le fossé entre l'époque féodale, il y a 1000 ans, disons, et l'époque moderne, où le monde fondé sur le service, puis la chrétienté bascule dans un esprit mercantile, qui est principalement mercantile aujourd'hui. Hein. Tout est pour l'argent, l'argent, le profit. Mais c'est surtout le rôle de la femme qui va la passionner, et on peut dire que... Régine Pernoud, éminente catholique, était une féministe intelligente. Si on pense à la libération des mœurs ou à l'égalité exacerbée, ou si vous voulez l'égalitarisme exacerbé qui fait de la femme un homme, elle n'est pas d'accord comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle est convaincue que la femme et l'homme sont profondément égaux en dignité et en droit. Elle a dénoncé tout ce qui s'est passé pour nuire à la femme. Mais elle s'est intéressée en particulier à Jeanne d'Arc, vous ai-je dit. Et au départ, pour elle, Jeanne d'Arc était prisonnière des figures absolument ennuyantes, des statues à la Saint-Sulpice, qui, l'art de Saint-Sulpice, ça veut dire l'art du quartier autour de l'église de Saint-Sulpice où on vendait des objets religieux quétaines. Elle disait, Jeanne d'Arc ne m'attire absolument pas. Je la rattachais au cortège de l'Action française, un groupe catholique de droite, hein, de ma jeunesse, ou encore à l'utilisation qu'en faisait le Parti communiste. Et il faut dire que Jeanne d'Arc a été représentée dans les pays de l'Est, chez les communistes, comme la femme lâchée par son roi et condamnée par l'Église. Alors évidemment, les communistes en profitaient. Cette récupération de tous côtés l'agaçait profondément. Les catholiques d'extrême droite et les communistes d'extrême gauche. Or, en 1952, le directeur de la Revue de Paris lui demande un article sur la réhabilitation de Jeanne d'Arc et c'est parti de là, 1952, puis elle a consacré une grande partie de sa vie. Elle va se plonger dans le texte, elle va y passer sa vie. Hein. Il y a matière. En effet, Jeanne d'Arc est le seul personnage du 15e siècle pour lequel autant de documents ont été rassemblés. Saviez-vous ça? Il y a le procès lui-même. Avez-vous déjà lu ça? C'est passionnant. Le procès en nullité aussi. Les témoignages de 115 personnes, dont les habitants de Don Rémy, son village, et du peuple, des seigneurs, ceux qui l'ont condamné, mais aussi les poètes et les lettres privées des marchands italiens qui sont présents quand elle est libérée à Orléans. Alors, elle lui consacre une bonne douzaine de livres, et Régine Pernoud fait sortir Jeanne d'Arc de l'ombre. Elle nous la montre humaine et féminine, malgré les apparences, et entièrement consacrée à Dieu, canonisée au XXe siècle. Une Jeanne Une Jeanne déterminée, certaine d'être aimée de son Seigneur, et qui même dans ses doutes n'a qu'une prière. Elle s'adresse à Dieu, elle dit, je vous requiers si vous m'aimez. Quelle belle prière, hein? Alors, l'héritage de Régine Pernoud, mais c'est d'abord la place de la femme. Et selon elle, la femme médiévale peut être un exemple aujourd'hui. Elle disait, l'Afrique devrait écouter ses femmes. On lui doit un centre Jeanne d'Arc qui a été créé à la demande d'André Malraux à Orléans. Faut pas se leurrer, hein. Tout ce qu'on dit sur le Moyen-Âge, qui sont des attaques indirectes contre le christianisme, eh bien, il faut relire les ouvrages de Régine Pernoud pour se rendre compte que le christianisme a fait du Moyen-Âge une grande époque. Ses livres sont son héritage. Elle nous donne des arguments pour nous rendre compte qu'à cette époque, l'Église a servi vraiment l'humanité. Il faut vraiment en finir, comme elle dit dans son livre, avec le Moyen-Âge. Par contre, si vous vous intéressez toujours à des encyclopédies, bien l'Encyclopédia Universalis a publié en un seul volume tout ce qui a trait au Moyen-Âge dans cette grande Encyclopédia Universalis, comme ils ont fait, vous ai-je dit, hier pour l'islam, mais c'est un ouvrage de près de 1000 pages, Dictionnaire du Moyen-Âge, Histoire et Société, Encyclopédia Universalis, paru chez Albin Michel. Je vous rappelle que les vies de Jeanne d'Arc par Régine Pernoud sont absolument splendides. Jeanne d'Arc paru au Seuil en volume pas très épais, mais très grand. Et puis, il y a Vie et mort de Jeanne d'Arc, le procès de Jeanne d'Arc, elle a publié avec Georges Duby, Vie et mort de Jeanne d'Arc, encore les témoignages du procès de réhabilitation chez Hachette, etc. Il faut vraiment lire pour vraiment aimer Jeanne d'Arc et apprendre à aimer cette grande femme qui est Régine Pernoud, décédée il y a un an, à mon avis, en odeur de sainteté. Je suis allé déjeuner chez elle quelquefois. J'avais l'impression d'être en présence d'une femme ardente, d'une catholique profondément convaincue et intelligente. Une sainte du monde moderne. Elle n'a pas eu à entrer au monastère comme sainte Opportune, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui a vécu de 720 à 770. Régine Pernoud, de 1909 à 1998.